Bonjour à tous, entre chien et loup, opus du mercredi. Je suis heureuse parce que je suis entourée par de beaux hommes, le réalisateur Francky, les filles, il est déjà marié, et Alexandre. Alors Alexandre Bierry est un menteur. Et je vais vous dire, il est même payé pour ça. Non, il n'est pas dans la politique. Il n'est pas dans la publicité. Non, c'est le menteur de Corneille. Bonjour Alexandre.
Bonjour.
Alors, c'est un régal parce que le succès est déjà là. C'est un spectacle dont on parle beaucoup. C'est au Théâtre de Poche actuellement.
C'est ça. Ça a commencé le 1er septembre. Je crois que c'est la 15e ou la 20e autour de là.
Voilà. Et vous refusez du monde, c'est formidable.
On refuse pas encore, petit à petit, ça va venir. On sent que ça
va quand venir. Même, les week-ends, il faut mieux réserver.
Hein. Les week-ends, c'est mieux.
Voilà. Ah, voilà. Alors, ce qu'il y a de formidable, on en parle tout de suite, vous êtes au Théâtre de Poche. Vous êtes un peu chez vous au Théâtre de Poche. Parce que ce théâtre, pour moi, quand j'y vais, j'ai toujours le souvenir de votre grand-mère, Renée Delmas, qui était là tout le temps. Et de Étienne Bierry, votre grand-père, qui était un comédien mais incroyable, un personnage aussi. Et n'oublions pas qu'il a fait avec votre oncle Grand-père Viking. Je cite souvent parce que c'est un feuilleton qui m'avait énormément frappé, que j'avais beaucoup aimé.
Oh, je l'ai jamais vu.
Il faisait Monsieur Pu de pièces.
Je l'ai jamais vu, j'ai honte.
Ah, il faut le voir.
Ouais.
Ah, faut le voir. Oui, ça fait partie des grands souvenirs pour moi. D'ailleurs, votre grand-père avait été très content lorsque je lui en avais parlé.
C'est vrai?
Oui. Et donc, ça a été un, j'ai envie de dire, ça a été, hein, on peut dire, un laboratoire de création très longtemps.
Ah oui, complètement. Ils ont créé, donc mes grands-parents ont dirigé ce théâtre pendant une cinquantaine d'années et ma mère à la fin également, enfin à la fin de...
Marion Bierry.
Sous l'ère Bierry, le théâtre de Poche sous l'ère Bierry. Et ça a été un lieu de création. Ils ont créé plein d'auteurs pour la première fois en France.
Victor Haïm, entre
autres. Il y a eu UNESCO, voilà. Plein de...
Et votre grand-père a joué beaucoup Beckett aussi,
oui.
Donc voilà. Moi, je trouve ça très touchant, cette filiation, parce que Marion Bierry, votre mère, est comédienne, metteur en scène, voilà, et votre oncle est comédien.
Également.
Et alors, je vais vous dire, c'est très bizarre, parce que comme j'ai été traînée avec plaisir dans ce théâtre dès mon plus jeune âge, voilà, donc j'ai l'impression que ce sont des frères et sœurs, que vous êtes quand même un de mes neveux, parce qu'on se connaît, quoi, quelque part, il y a quelque chose comme ça, et je trouve ça très touchant. Donc, est-ce que Marion, elle a une charge émotionnelle quand il y va, ou c'est vrai que le théâtre a été transformé, donc où c'est moins?
Y a quelque chose, bien sûr, à chaque fois, je pense qu'elle traverse les portes du Théâtre de Poche, et moi également, puisque je suis né aussi dans ce théâtre, ma mère également. Y a quelque chose, y a de la nostalgie, on est très heureux d'être là-bas, on est très bien accueillis par les Tessons.
Les Tessons, absolument, père et fille, donc il y a des filiations.
Exactement, on s'y sent comme à la maison, même si ce n'est plus vraiment la nôtre.
Alexandre, est-ce que c'est la première fois que vous jouez sur cette scène?
Alors, c'est non, puisque le Théâtre de Poche a été ma première scène, justement. J'y ai joué en 2009 dans La Ronde, mise en scène par ma mère.
Ouais. Qui est un très beau spectacle.
Voilà. Mon premier spectacle. Et puis après, j'y ai rejoué au Théâtre de Poche. Là, une fois que le théâtre a changé de direction, dans un Marivaux, mise en scène par ma mère également.
Voilà. Mais j'aime bien, c'est un côté artisanat. Je trouve, c'est pour ça que je voulais qu'on commence un petit peu par ça, parce que je trouve que c'est bien quand il y a des filiations, des générations. Vous savez, on aime bien marquer artisan boulanger de père en fils, et tout ça. Et alors c'est marrant, autant on trouve toujours normal que les artisans, leurs enfants travaillent, que pour les comédiens, il y a toujours une suspicion.
C'est incroyable. Lorsque j'ai des interviews et qu'on me demande, mais alors c'est pas dur d'être fils de et tout, je cite toujours cet exemple du boulanger ou du boucher en disant, mais on demande jamais à un fils de boucher si c'est difficile d'être dans les lombres de son père et tout. Voilà. Donc,
voilà. On est bien d'accord.
Complètement.
Oh, punaise, ça commence bien. Alors, il faut vous dire que j'adore Corneille, le menteur de Corneille. C'est pimpant, c'est drôle, mais il y a une grande philosophie derrière cette pièce. Parlez-nous de votre personnage.
Alors, mon personnage, c'est un jeune homme, Dorante, qui vient de finir ses études de droit à Poitiers. Il a quitté Paris et la maison familiale depuis quelques années, on ne sait pas exactement, peut-être 5 ans. Il revient enfin à Paris, où il retrouve son valet, Cliton, interprété par Benjamin Boyer ou Thierry Lava.
Je dis, c'est en alternance. C'est ou Benjamin ou Thierry.
Exactement. Joue, voilà. En ce moment, c'est Thierry. Là, on est mercredi. Ouais, c'est Thierry ce soir.
Mercredi, c'est Thierry.
il retrouve donc ce Cliton à Paris, ce valet, et il vient de finir ses études de droit. Et pour conquérir les filles, il croise deux filles aux Tuileries, dans les jardins des Tuileries, Clarisse Anne-Sophie Nalino et Lucrèce Mathilde Rillet. Il va se faire passer pour un soldat qui a fait la guerre, premier mensonge du spectacle. Il va retrouver pareil dans les jardins des Tuileries son un de ses meilleurs amis d'enfance, Alcippe, interprété par Brice Elleret. Nouveau mensonge un peu pour flamber, pour voilà. Il va pas dire qu'il a fait du droit, c'est pas très
tout pas celle d'amour.
Très vendeur, non. Et dernier personnage à qui il ment, et beaucoup, beaucoup de fois, son papa, Géronte, Serge Noël.
Qui est un très bon père.
Qui est un très bon père.
Très, très bon père. Hein. Parce qu'il faut voir aussi, à l'époque... Alors, justement, d'époque... Alors, comme je vous le disais, hors micro, moi qui suis psychorigide, j'aime pas qu'on change les époques, ça m'énerve un peu le moderne. Mais là, il y a des costumes, d'ailleurs, que tout le monde apprécie énormément... Sauf les comédiens quand ils ont trop chaud. Je vous ai plein, le jour où je vous ai vu, il faisait une chaleur caniculaire. Et je pense que votre redingote était bonne à essorer.
Ah, complètement.
Tellement vous aviez chaud. Hein.
Là, un mois après, déjà, il fait frais dehors. Et on goûte quand même.
Ah,
le soir,
il fait chaud sur le plateau. Voilà.
Mais oui, quand vous êtes venu début septembre.
Je vous ai vraiment plein. Parce que je dis, les pauvres, ça doit être infernal. Alors, les costumes, quelle époque a choisi Marion Bierry?
Alors, elle n'a pas situé l'intrigue au XVIIe siècle.
Non.
Non, mais elle ne l'a pas situé actuellement en jean basket non plus. Il y a des beaux costumes, de très beaux costumes et un beau décor. Elle l'a situé un siècle après et quelques, 150 ans après, après la Révolution française, le Directoire.
Voilà, tout à fait.
Ce qui donne une sensation de liberté.
Voilà, qui est très beau costume d'ailleurs. Voilà. Alors, aussi, alors moi toujours qui suis psychorigide de la mère Attino aujourd'hui, sur le texte, mais je dois dire que l'adaptation est tellement bien faite. C'est un plaisir parce que y a un côté, mais alerte, drôle. On se dit à un moment donné, mais comment il va faire pour s'en sortir dans tous ces mensonges? Et en somme, votre personnage, c'est un danseur classique qui fait des pirouettes incroyables entre le danseur et l'acrobate.
C'est ça, complètement. En utilisant les mots.
Oui.
Voilà, mais oui, on est complètement là-dedans.
Mais je suis contente qu'on remonte Le Menteur, qui est une pièce que je n'avais pas vue depuis quelques années. Il y avait eu une très belle version à la Comédie Française avec Richard Fontana. Très étonnée de voir que Richard Fontana, qui a été un pilier de la Comédie Française, soit aussi oublié aujourd'hui, mais c'était un comédien incroyable. Et il y avait une autre version qui avait été montée à Aubervilliers, et une aussi avec Nicolas Vaud.
Oui.
Voilà. Qui a été enregistrée par la Copate. Alexandre est baba. Il se dit, mais comment fait-elle pour savoir tout ça?
Waouh! Moi-même, impressionné.
Moi-même, je ne le sais pas.
Non, je savais que Nicolas Vaud avait...
Voilà.
Je marchais un peu.
Oui. Alors, moi, je ne vais pas vous le cacher. Si Alexandre et là, vous me connaissez, chers auditeurs, chères auditrices d'IFM 98, entre chien et loup, j'ai fait mes mentions légales, c'est que j'ai aimé ce spectacle. Parce qu'on se laisse porter, on se laisse porter, on se dit non, mais parfois on a envie de se lever et de lui flanquer une gifle. Je dis, bon, écoute, ça suffit maintenant, tu es raisonnable. Mais alors... À la limite, il a des mensonges qui pourraient le desservir, pas à cause de ses mensonges, mais tout à fait passer à côté de son bonheur.
Oui, mais déjà, ce qu'on peut dire, c'est que ce personnage n'est pas méchant.
Non.
On le mentait, on pourrait dire, oh là là.
Non, il n'est pas méchant.
Il dit de caractère. Non, c'est pas du tout ça.
C'est un affabulateur.
Ouais. Mais déjà, il croit pas à ses mensonges. Enfin, c'est pas comme un Matamor dans l'illusion comique qui croit oui. totalement ses délires,
non, ses mensonges. Non, c'est pas un mythomane, non, du tout.
Un menteur gentil. Ouais. Il ment un peu, beaucoup, mais c'est jamais pour faire du mal. C'est dans son intérêt, bien sûr, mais c'est pour rendre la vie un peu plus, voilà. un peu plus belle et un peu plus jolie. Et oui. d'ailleurs, la preuve, c'est que ça se finit très bien, le spectacle.
Oui, mais faut pas déflorer
non,
tout.
Non, bien sûr. On ne dit rien.
Ne dites pas qu'il y en a bien, là.
Alors.
On va passer à un grand de la chanson que j'adore, qui pour moi n'est pas mort, c'est Alain Bachung. Et Alain Bachung a écrit en pensant à Alexandre, « La nuit, je mens ». On écoute tout de suite.
On m'a vu dans le Vercors, sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. À la station balnéaire, tu t'es pas fait briller. J'étais gants de crin, je zère. Pour un peu, j'ai trempé. Histoire d'eau. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. J'ai fait la saison dans cette boîte crânienne. Tes pensées, je les faisais miennes. T'accaparer seulement, t'accaparer. D'estrade en estrade, j'ai fait danser tant de malentendus. Des kilomètres de vie en rose. Un jour au cirque, un autre à chercher à te plaire. Presseur de loulou, dynamiteur d'aqueduc. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je mens, et effrontément. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. On m'a vu dans le Vercors sauter à l'élastique, voleur d'amphores au fond des criques. J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né. La nuit je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions. Où subsiste encore ton écho. Où subsiste encore ton écho. Je prends des trains à travers la plaine. La nuit je m'en lave les mains. J'ai dans les bottes des montagnes de questions où subsiste encore.
Vous connaissiez ce titre, Alexandre, La nuit je demande, Alain Bachung?
Je connais très mal Alain Bachung.
Mais c'est pas grave.
Ouais.
C'est pas grave. Il faut le connaître.
Je vais m'y atteler.
Parce qu'il y a différentes périodes dans Bachung. Il y a le Bachung de Ogabi ou des choses comme ça. Et puis après, il y a entre autres, je crois qu'il a écrit pour moi l'une des plus belles chansons françaises, qui est Madame Rêve, qui est magique, que je passe régulièrement à la radio. Je dis, tiens, il y a longtemps qu'on l'a pas passé. J'ai comme ça des disques que je passe régulièrement, oui, comme Le Petit Bal Perdu avec Bourvil, voilà. Hop! Non, mais là, aujourd'hui, c'est promis, on en passera d'autres. Alors, comment, je veux dire que le décor très beau est de Nicolas Cyr.
Oui.
Les costumes de Virginie Oudinière, quand même, connaît son affaire. Faut quand même le dire. La mise en scène est de Marion Bierry. Alors, comment Marion a eu-t-elle envie, l'idée de monter cette pièce?
Bon, le menteur, elle en parle depuis peut-être, je sais pas, 4 ans. La première fois que j'en ai entendu parler, c'était il y a 4 ans peut-être. Où à l'époque déjà, elle disait faudrait monter le menteur et sa suite. Puisque chose très moderne pour l'époque de Corneille. Corneille a écrit une suite au menteur. Mmh. Le menteur 2. Enfin, il l'appelle la suite du menteur.
Le retour du menteur.
Ce qui est quand même très, très okay, moderne. Et il y a des choses croustillantes là-dedans qu'elle a eu envie d'utiliser. Donc bon, voilà, ça s'est fait peut-être qu'il y a 4 ans, elle a commencé à émettre l'idée. Et puis c'est surtout il y a 2 ans, pendant le confinement, où elle était en pleine révolution française, puisqu'elle jouait, elle venait de finir de jouer Marie-Antoinette.
Ouais.
Où elle a relu Corneille, elle a relu le menteur, elle s'est dit, faut que ça se passe à ce moment-là, après la révolution française. Et donc, son travail après d'adaptation, ça a été, elle a une pièce avec 10 personnages, je crois, le menteur, il y en a 10, 9 ou 10. Elle fait, il y a quand même des petits personnages qui ne sont pas nécessaires à l'intrigue, parce que déjà que l'intrigue est, elle n'est pas compliquée, mais il y a du quiproquo, il y a des, voilà. Elle a enlevé donc 3-4 personnages, dont des suivantes.
Oui, j'allais dire d'autres valets.
Voilà, exactement.
Un ami du père, je crois, je ne m'en suis pas sûre.
Ami du père dans le cinquième. Et ces choses-là ont été redistribuées, ces scènes-là, aux personnages principaux existants, notamment Alcippe ou alors à Cliton, le valet, ce qui rend l'affaire... Enfin, voilà, c'est plus fluide. Ça a été son premier travail d'adaptation, d'enlever ces personnages-là. Et ensuite, elle s'est amusée à prendre quelques extraits de la suite du menteur, où Corneille s'amuse à faire une mise en abîme. Dans cette pièce-là, la suite du menteur, il parle de sa pièce, le menteur, qui a été joué à Paris. Donc on a utilisé ça au début, pendant le prologue et à la fin du spectacle.
Moi, ce que j'aime chez Corneille, c'est qu'il y a un élan, sa jeunesse. Voilà, donc il faut dire, le Cid, c'est une pièce d'un jeune homme, quoi. C'est, voilà, on est dans les élans, il parle des conflits avec les pères. Oui. Bon, il y a des choses comme ça. Et dans le menteur aussi, et cette histoire de suite, Molière aussi avait fait ça. Molière mettait une mise en abîme de ses pièces, parce que quand il parle de la critique de l'école des femmes, ou il aime bien parler de ses comédiens et tout ça, il y a quelque chose comme ça. Donc, il est vrai que c'était un peu un making-of qu'il faisait à l'époque.
Oui, c'est ça, voilà. Un petit peu ça.
Donc, ouais. Parce que beaucoup de ces auteurs, aujourd'hui, ils feraient des séries télé, et puis ils feraient des trucs, peut-être qu'ils feraient peut-être aussi du théâtre, et tant mieux, et des séries télé, on sait à quel point ça a pris un essor, mais incroyable, et que c'est de mieux en mieux fait. Mmh. Quoi qu'il y avait des cires autrefois qui étaient très très bien faites, La Dame de Montsoreau par exemple, ou Grand-père Wiking, que Alexandre n'a toujours pas vu. Je ne le dirai pas à Stéphane, qui sera extrêmement peiné.
Sûrement.
D'apprendre.
Sûrement. Désolé, tonton.
non, c'est. Et voilà. Alors, c'est vrai que c'est un jeu de dupes qui est formidable. Je voulais savoir, est-ce que ce texte est difficile à mettre en bouche?
Alors, je vais répondre là pour moi. On nous demande souvent, qu'est-ce que ça doit être difficile d'apprendre ça par cœur, par exemple. Finalement, non, c'est la première étape et c'est peut-être la plus simple d'apprendre par cœur, même si le texte, notamment de Dorante, est assez long.
C'est vrai, Alexandre, excusez-moi, c'est le par cœur, c'est ce qui est omnubile les gens chez les comédiens.
Complètement.
C'est marrant, ça. Hein,
complètement. Alors que, qu'est-ce qu'il y a comme exemple?
C'est je pas, sais pas ce qu'il y a. C'est pas ce qui est le plus difficile.
Dans tous les métiers, il y a du par cœur, je pense,
voilà,
en fait.
Absolument.
Et, notamment, non, mais ce qui impressionne, le public, c'est les alexandrins. Ouais. Or, il n'y a rien de plus facile que d'apprendre des alexandrins. Si j'avais le même nombre de mots en prose, ça m'aurait mis beaucoup plus de temps à apprendre. Puisque les alexandrins, pourquoi est-ce qu'on connaît par cœur les chansons? Parce que ça rime. Exactement. C'est très simple. C'est, voilà.
Je veux dire, il y a une rythmique, une logique.
Donc, on me donne un mot, je sais la suite des voilà. 24 voilà. prochains pieds.
Voilà. Oui, c'est vrai, vous avez parfaitement raison de le dire, Alexandre. Les alexandrins ont été faits pour lui, naturellement. Et vous savez pourquoi on parle des alexandrins?
C'est en rapport avec Alexandre. Non, ouais.
C'est parce que la première pièce qui a été écrite comme ça, c'était une pièce sur Alexandre.
Alexandre.
Donc c'est bon, devenu des alexandrins.
Ça ne pouvait être voilà. que ça.
Mais c'est vrai, vous avez raison. Moi, alors je voulais savoir aussi, mais on va faire une deuxième pause musicale.
Ah,
alors,
allons-y.
À la demande d'Alexandre, un autre Bachung, et on va mettre Fantaisie militaire.
Au pays de matin calme, pas un bruit ne sourd. Rien ne transpire des ardeurs. J'aimais quand je t'aimais, j'aimais quand je t'observais. J'étais l'attaque. Je sais plus qui tu es, qui a commencé. Quelle est la mission? Soldat sans joie va déguerpir. L'amour t'a faussé compagnie. Des nuits sans voir le jour. À se tenir un jour. Des mois à ses pieds. Passer à ton tour. De s'endormir hanté. Ne plus savoir. Je sais plus qui tu es. Qui a commencé. Quelle est la mission? Soldat sans joie va déguerpir. L'amour t'a faussé compagnie. L'amour t'a faussé compagnie. Sais-tu que la musique, sais-tu? Sais-tu qu'un salaud a bu l'eau du nénuphar? L'honneur, tu l'as perdu sur ce lit de bataille. Soigne les hommes à poigne, soulage la pâtissière. Je sais plus qui tu es, qui a commencé. Quelle est la mission? Soldat sans joie va déguerpir. L'amour t'a faussé compagnie. L'amour t'a faussé compagnie. L'amour t'a faussé compagnie. Amour t'a faussé compagnie.
Voilà, donc c'était à la demande d'Alexandre Bierry, qui est un fan d'Alain Bachung, il ne le savait pas encore. Donc c'est Fantaisie militaire, voilà.
Magnifique.
Hein, c'est magnifique. Chouette, hein. Et puis alors, ne me poussez pas parce que je vais peut-être passer quand même Madame Redmond. Donc, pour les auditeurs qui nous rejoignent, nous parlons de l'excellentissime Menteur de Corneille, adaptation et mise en scène Marion Bierry. C'est au Théâtre de Poche, c'est actuellement, c'est du mardi au samedi 21h et le dimanche à 15h. Il faut y aller parce que, et vous y allez avec vos enfants. Bon, alors je dirais quand même à partir d'une dizaine d'années.
Ouais, hein, on a eu mais, du 8-9 ans habitués, voilà.
C'est ce que j'allais dire. Moi, les miens, ils ont été traînés au théâtre tout de suite. Ouais. Mais pour ceux qui n'ont pas l'habitude, 8-10 ans, c'est parfait.
Et puis parfois même, les enfants comprennent plus de choses que les parents, parce que bien qu'il y a des Alexandrins et tout, ils ne sont pas si difficiles que ça. Au début, il faut rentrer dedans, bien sûr, les 5 premières minutes.
Les enfants, ça ne les gêne
pas. Mais ça ne les gêne pas. Et ils comprennent, par contre, la situation, elle est hyper claire pour eux. Vu qu'il y a plein de quiproquos et tout, eux, ils ne cherchent pas à comprendre.
Ils sont à fond dedans.
Ouais. Ouais, et alors, ils se marrent, on entend... Qu'est-ce que c'est d'entendre des rires d'enfants
Ah oui.
Ouais, c'est...
Oui, j'ai été voir une pièce où il y avait un petit bout de chou qui était mais trop mignon. Et puis, à un moment donné, les personnages allaient se battre. Et puis, il fait, ils vont pas faire ça, ils vont se faire du mal. Et les comédiens ont eu un mal fou. Toute la salle a rigolé. Mais c'était, puis ils ont dit après au petit garçon, tu sais, tu nous as rendu un hommage formidable.
Ouais.
Parce que t'étais avec nous. Donc, c'était trop mimi.
On fait rire le public, mais parfois le public peut nous faire rire.
Oui. Alors moi, ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'on était très sages le jour où nous étions, car il n'y a pas eu de téléphone portable.
Oui.
Alors là...
Bravo. C'est rare. Enfin, voilà, il y a quand même souvent des... Ça peut arriver des sonneries.
Oui.
Là, il y a 2 jours, nous est arrivée une expérience un peu plus difficile. C'est autant les sonneries, on est habitué à passer outre, maintenant. Ça arrive souvent. Là, c'était une radio, justement, où quelqu'un avait laissé... un podcast ouvert sur son téléphone et a mis beaucoup de temps à s'en rendre compte. Peut-être 15 minutes pendant tout le premier acte, c'était assez difficile.
Alors, ce qui est pénible, c'est les montres connectées.
Ah, bon, elles font du bruit maintenant?
Les montres connectées, par exemple, qui vous font des rappels toutes les heures.
Ah, oui.
Et j'ai été au théâtre avec une dame qui s'en est excusée. Elle a retiré sa montre et elle est sortie pour la donner à une ouvreuse.
Ah oui, parce qu'en plus, on ne sait pas comment les éteindre, ces machins.
Oui, donc c'est un petit peu...
Moi, je dis, il n'y a rien de mieux que d'éteindre vraiment son portable. Pourquoi le mettre en mode avion, quoi ? L'éteindre vraiment.
Alors moi, c'est un côté presque psychorigide, où je vous l'ai déjà dit. Ce serait carrément pour faire un vestiaire à portable.
Ouais.
Parce qu'on n'en a pas besoin. Moi, je me suis engueulée, mais il n'y a pas d'autre mot, avec quelqu'un l'autre jour qui, au cinéma devant moi, est en train d'écrire des mails.
Ouais.
J'ai dit, mais qu'est-ce que vous foutez ici ? Sortez ! Elle me dit, si je veux.
Parce que ça... voilà, au cinéma, ça dérange tout le public, mais alors au théâtre, ça dérange et le public et les comédiens.
Ouais. Non, mais il y a des choses qui m'énervent. Alors, puisque nous sommes dans un des fleurons du théâtre classique, je suis allée voir Bérénice de Jean Racine, qui est beaucoup moins rigolo que mon pote Corneille. Faut bien le reconnaître. Quoique dans la vie, mais enfin bon. Bah. Bérénice, c'est Carole Bouquet. Mise en scène par Muriel Mayette-Holz, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors, c'est le décor et costume de Rudy Samougui. Donc, on sait que c'est pas quelqu'un qui fait dans la rigolade. On a l'impression d'être dans une chambre d'hôtel où il n'y a rien. Un lit, des rideaux. Bon. On est en costume contemporain. Bon, pourquoi pas. Carole Bouquet est imputrescimement belle. Ça, faut le dire. Donc, il se passe quelque chose. Si on entend parfaitement bien le texte, et vraiment, Carole Bouquet et Frédéric de Golphine qui fait l'empereur sont très bons. Par contre, ce qui m'a gênée, c'est que c'est une passion. C'est un amour incroyable entre Titus et Bérénice. Il y a des vers qui sont tellement beaux de tous les jours. Voilà. Mais on sent pas ça. On sent pas ça et ça m'a gênée. Et... c'est ça qui m'a gênée. Même si dans la salle, l'écoute était absolument vraiment prodigieuse, c'est à la Scala, ce manque de passion m'a gênée. Parce que moi, je me souviens d'un Tite et Bérénice qui était au théâtre du Vieux Colombier, où on était tellement avec eux qu'on espérait quelque chose, même si on connaît, enfin, on était beaucoup à bien connaître la pièce. Donc, ce manque de passion m'a gênée, franchement, parce que j'ai trouvé qu'il manquait une chaleur dans ces bains. Et puis, je suis désolée, mais Antiochus est particulièrement mauvais. On n'y croit pas du tout. Alors qu'Antiochus, c'est un homme amoureux, c'est un homme déçu, qui est tiraillé. Et là, dans ses amours, il y a quelque chose qui ne passe pas. Et en voyant Bérénice, j'ai pensé à Cléopâtre de Mankiewicz. Vous avez vu ce film ? Oh là 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 là, mon Dieu, Alexandre. Alors je vais vous faire une fiche de conduite. Il faut que vous voyez Cléopâtre avec Elizabeth Taylor, qui est absolument magnifique. Voilà. Donc on sent la passion qu'elle éprouve et pour César qu'elle a vraiment aimé, et après pour Marc-Antoine. Bon, faut dire que Richard Burton, on comprend qu'on était dans les années 60 encline à être amoureuse. Voilà, ça. Mais si vous aimez Carole Bouquet, faut y aller parce qu'elle est vraiment magnifique, elle est vraiment très bien. J'ai passé une bonne soirée, hein, avec ces petits ces petits mets. Voilà. C'est ce que je voulais dire pour être tout à fait honnête. Et voilà, à la demande générale d'Alexandre, on va passer Madame Rêve d'Alain Bashung.
D'atomise et de cylindres si longs qu'ils sont les seuls qui la remplissent de bonheur. Madame rêve d'artifice, de formes oblongues et de totems qui la punissent. Rêve d'archipel, de vagues perpétuelles, sismiques et sensuelles. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh, ciel. Au ciel, on est loin des amours de loin, on est loin des amours de loin, loin. On est loin. Madame rêve ad libitum, comme si c'était tout comme dans les prières, qui emprisonne et vous libère. Madame rêve d'apesanteur, des heures de voltige à plusieurs. Rêve de fougères, de foudres et de guerres, à faire et à refaire. D'un amour qui la flingue, d'une fusée qui l'épingle. Oh,
voilà, Madame Rêve d'Anna Bashung. Et alors, Alexandre, vous êtes conquis.
Ça y est.
Alors, c'était le générique d'un film avec Fanny Ardant.
D'accord.
La chanson, okay, donc... vous connaissez Fanny Ardant?
Oui, oui.
Je suis méchante, oh, je le chipote, voilà. Donc, le menteur... Alors, vous avez deux valets en alternance.
Oui.
Benjamin Boyer et Thierry Lavade. Est-ce que ça vous fait coucou à tous les deux, qui sont venus ici souvent? Est-ce que ça vous étonne ou pas? Est-ce qu'ils vous font des farces? Est-ce qu'il y en a un qui vient au début et l'autre vient après, si on veut dire?
Thierry a commencé là il y a une semaine. Benjamin a fait les trois premières, oui, semaines. Donc voilà, non, on sait quand est-ce qu'ils sont là, heureusement. Enfin, peut-être qu'un jour ils vont pas me prévenir et hein, on fera avec.
Il y aura un troisième.
Ouais, peut-être un troisième. Mais heureusement, ils sont jamais venus les deux en même temps.
Ouais. Est-ce que ça vous déconcerte ou pas?
Non, ça me déconcerte parce pas. C'est toujours. Ils ont chacun leur jeu, oui, et donc c'est plaisant de passer de l'un à l'autre.
Oui, et deux font deux très bons valets d'ailleurs.
Oui.
Hein, parce que c'est il y a un petit côté comme ça qui est tout à fait.
Je pense qu'ils prennent beaucoup de plaisir à jouer ce rôle. Oui. Benjamin comme Thierry.
Alors il faut aller voir le menteur parce que vous allez passer un moment absolument délicieux, que vous allez connaître une autre facette de Corneille, et puis vous allez certainement découvrir Alexandre et d'autres comédiennes. Bon, peut-être que le petit jeune Serge Noël, vous ne l'avez pas le découvrir si vous venez souvent au théâtre, mais voilà. Mais c'est ce qu'on appelle, alors en termes, une très belle production. Je veux dire que c'est un très beau spectacle. C'est un spectacle qui fait plaisir. C'est un spectacle bien-être. Voilà, c'est ça. C'est un spectacle bien-être. On est tous contents. En sortant, on discutait avec des gens que je ne connaissais pas. C'est ça qui est formidable d'aller au théâtre. C'est, je pense, que le lien entre spectateurs est plus fort que le lien au théâtre. Il y a parfois, au cinéma, on ne parle pas forcément avec ses voisins.
Avec les spectateurs, avec, oui, les spectateurs, bien sûr. Entre, ah ben, voilà. Au cinéma, on y va, on ressort et on ne sait pas adresser la parole. Je pense que, oui, en effet, au théâtre, il y a ça. Et surtout dans ce lieu-là, au Théâtre de Poche, dans le foyer qui est magnifique. Ah, les, oui, gens ont envie de parler entre, oui, eux. Et les gens, parfois, attendent les comédiens. Oui. Et ça nous fait très plaisir. N'hésitez pas à nous attendre. On est là pour papoter avec vous.
Et puis, j'aurais parlé de l'ouvreuse.
Allons-y.
L'ouvreuse est un personnage. Elle a un accent d'Alès. Oui. D'abord, elle connaît son public.
Très bien.
Elle connaît très bien son public parce que un jour, moi, j'ai un problème de jambe, donc il faut que je sois en boudran pour allonger ma jambe droite. Et elle arrive, elle fait, il y a un problème. J'ai mis très mal les accents de l'Est. Il y a un problème. Ma chérie, tu n'es pas où il faut. Donc, elle est partie, elle a changé, elle a fait des trucs comme ça. Elle est adorable. Donc, n'oubliez pas l'ouvreuse, elles sont rémunérées au pourboire.
Ou les ouvreurs, ils sont une équipe de 4, je crois, ils sont tous...
Ah ben moi j'exige, enfin, de l'avoir elle.
Ouais, voilà. Mais toute l'équipe du Théâtre de Poche est formidable.
Alors, quand on est en plein comme ça, donc il y a oui et non une frustration, parce que c'est toujours bien de jouer dans un succès, de ne pas aller voir les autres pièces.
Ah oui, on n'a pas beaucoup de temps pour aller voir les autres spectacles, malheureusement. Et frustration, c'est très étrange, mais j'ai une frustration à ne pas voir ce spectacle, le menteur.
Oui.
Malheureusement, je le verrai. Peut-être jamais.
Oui, oui. Bah, peut-être qu'il va être filmé.
Oui, il y aura une captation.
Il y aura une captation.
Ouais. Ouais, c'est pas pareil.
Ça, c'est indéniable. C'est pas pareil. Et puis le lundi, il y a plein de choses qui se passent au Théâtre de Poche. Oui. Il y a plein de spectacles. Donc, si vous ne l'avez pas vu, il faut aller voir Un cœur simple avec Isabelle Andréani, qui est tout à fait une adaptation de Flaubert, qui est absolument...
Je vais y aller.
Elle est époustouflante. Voilà. Donc, Isabelle, tu n'oublieras pas de m'envoyer mon chèque pour publicité gratuite faite à la radio et pour avoir poussé Alexandre à y aller.
Non, j'allais y aller, de toute façon.
Donc, c'est vrai. Donc, ce menteur nous a fait du bien. Et l'adaptation est tellement fine, est tellement intéressante. Et ce qu'on ressent, nous, spectateurs, c'est qu'on ressent comme si vous étiez une troupe. Et on sent une connivence sur scène. Oui. Et ça, c'est très agréable.
Ça, c'est le travail de Marion qui, voilà, pendant les répétitions, qui fait que pourtant, on se connaissait pas tous.
J'allais vous poser la question, justement. Oui.
On se connaissait pas tous. Moi, personnellement, je ne connaissais ni Brice, ni Anne-Sophie, donc, qui interprète.
Brice, il est épouvantable.
Il est.
Oh!
Il est épouvantablement formidable.
C'est pas
oui.
un comédien que j'aime du tout. Brouh, oh là là là.
Je sens l'ironie. Non, il est formidable. C'est un plaisir de jouer avec lui et de l'avoir rencontré justement. Et pareil pour Anne-Sophie Nalino que je ne connaissais pas.
Oui.
Voilà, c'est un bonheur. Les autres, je les connaissais.
Et Marion avait déjà travaillé avec eux ?
Non. Non. Ni avec Anne-Sophie, ni avec Brice, ni avec Thierry d'ailleurs.
Est-ce que vous avez passé une audition ?
Est-ce qu'ils ont passé
est-ce que vous avez passé une audition auprès de Marion?
Auprès de ma maman? Non.
Pardon de poser cette question bateau, mais bon, vous êtes une famille, une génération de comédiens. Est-ce que parfois c'est pas difficile de jouer avec les siens? Ou c'est plus facile? Il y a un peu des deux peut-être?
Non, c'est, on dit souvent les comédiens au théâtre, on travaille avec des familles au sens large du terme. Là, c'en est une de 100, mais on travaille souvent avec sa famille, ses familles, on découvre d'autres familles. Là, de travailler avec ma mère, c'est quelque chose de logique. J'ai beaucoup travaillé avec elle. Elle m'a formé, c'est elle qui a fait le comédien que je suis. Et mes grands-parents aussi, bien sûr. Donc non, c'est assez logique.
Figure tutélaire des grands-parents.
Voilà. Mais non, c'est très... et puis c'est très professionnel en même temps. Il y a pas, enfin voilà.
Oui, oui, ah oui. Ah bah absolument.
Pendant les répétitions, il n'y a pas de place à... Voilà.
Non, non, mais... moi, écoutez, c'est vrai que dès que je suis sortie, j'ai dit à Pascal, votre attaché de presse, coucou Pascal. J'adore, il faut qu'on fasse quelque chose, parce que vraiment, ça m'a vraiment... Et puis, il sait, Pascal, là, si j'aime pas, je dis, bon, il fait beau chez toi, bon, voilà, mais il y a vraiment quelque chose à faire. Alors, petit conseil, il faut aller voir l'exposition Munch qui vient de commencer au musée d'Orsay. Si, comme moi, pour vous, c'était surtout le cri, oui, c'est vrai, le cri, mais vous allez découvrir un personnage tout à fait fascinant. Et c'est des grandes expositions dont nous parlerons pas, non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours. Voilà. Je redis que je suis ravie de vous avoir reçu, Alexandre.
Ouais,
franchement, j'espère que ce sera votre première venue, mais d'autres venues, absolument.
Avec plaisir.
Et pourquoi pas faire un jour une émission spéciale sur la famille Pierry.
Allons-y.
J'aimerais bien avoir Marion, vous,
Stéphane, avec
plaisir. Et de parler de vos grands-parents qui ont été si importants dans le théâtre du XXe siècle. Bon, alors moi, je veux un livre sur les photos.
Oui, d'accord.
Voilà, c'est comme ça. Bon, il faut qu'on organise quelque chose. Voilà. Donc, il est content, Francky, mon beau réalisateur, parce que je lui ai rajouté un CD, enfin, un extrait que je lui avais pas donné, donc il essaie. Pour le menteur, je voulais savoir, ces costumes, on doit bien sentir dedans.
Oui, bah, dès l'instant où on répète 3 semaines, voire un peu plus, sans costume, là, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a répété tout de suite dans ce décor, qui est aussi un
oui.
décor magnifique. Formidable. C'est une boîte à jouer avec des panneaux qui bougent et c'est très joli. Et dès qu'on a mis les costumes, se passe quelque chose et on se sent bien... voilà.
Bah, d'ailleurs, pour les femmes, quand on joue une pièce à costume, très souvent, on met une jupe longue parce que ça conditionne les mouvements.
Ah oui,
et c'est comme quand on a des corsets, par exemple. Françoise Rosé, grande comédienne du cinéma, du théâtre, qui a fait le film extraordinaire La Kermesse héroïque, que vous n'avez pas vu, mais que vous allez voir.
Demain.
De Jacques Feder, ou que ça se passe pendant l'occupation espagnole dans les Pays-Bas. Et ils ont fait des recherches. Elle portait un corset. Elle dit, ça m'a donné mon personnage parce que ces femmes sont droites. Et on sait pourquoi. Parce qu'en plus, c'était des corsets à latte de bois. Donc, je sais pas si vous voyez. Voilà. Et donc, ça donne un maintien comme donne une façon de bouger différemment une redingote.
Mais bien sûr.
Et
mais
si on a des épées, des choses comme ça,
sûr,
et des chapeaux.
Les bottes, les... Voilà. Voilà, on trouve notre personnage dans le costume.
Oui, absolument, tout à fait. Donc, alors, Alexandre, vous transmettrez à Marion Bierry tout le bien que je pense de son travail, de ce spectacle que je recommande énormément. Il y a d'autres spectacles, mais pour l'instant, c'est celui-là que vous allez voir. Voilà. Alors, Alexandre, et là, je ne rigole pas.
D'accord.
Je vous donne 2 mois.
Oui.
Je suis gentille, hein.
Deux mois.
Pour voir Cléopatra.
Oui.
De Mankiewicz, qui est un metteur en scène de All About Eve, qui est un chef-d'œuvre aussi, mais Cléopatra avec Rex Harrison, que j'adore, Elizabeth Taylor, Richard Burton. Vous le regardez, après, Bachung, que vous avez
sans
commencé.
Sans problème, bah, bien sûr.
La Kermesse héroïque, Itou. Et qu'est-ce que... Et votre mère, elle n'a pas les cassettes de grand-père Viking?
C'est dans la maison de famille, je vais trouver ça.
Hein, voilà. Et alors, attention, je ferai des questions pièges.
Interro surprise.
Ah, mais je... Attention, je ne plaisante pas. Hein. Je ne plaisante pas. Hein. Je tiens à remercier le grand, le seul, l'unique, le beau Francky Lemanette, qui était à la réalisation. Je tiens à remercier Alexandre d'être venu nous parler avec tellement de simplicité et de gentillesse de ce magnifique... Redites-moi le prénom de votre personnage.
Dorante.
Oh, Dorante, c'est facile. Oui, non, mais je pensais à votre ami dans la pièce qui s'appelle...
Alcippe.
Bon, alors, Dorante, oui, j'en connais, même moderne, mais Alcippe...
Alcippe, il n'y en a pas eu beaucoup. Hein.
Ah, j'en connais pas.
Alcippe...
J'en connais pas.
Clarisse et Lucrèce, oui.
Oui.
Géronte,
oui.
Cliton,
oui.
Pas trop.
Non,
Cliton
non,
et Alcippe, c'est...
Donc, maintenant, quand on a des prénoms un peu bizarres, Dorante, j'en connais, mais là, bon, voilà. Merci infiniment, Alexandre, d'être venu. Je suis ravie de vous avoir rencontré. À la semaine prochaine. Déjà, on se retrouve... On est mercredi, oui, c'est ça. Donc, on se retrouve samedi pour la musicale et mercredi prochain pour d'autres aventures théâtrales et tutti quanti. Au revoir, merci.
Au revoir, merci.
Écoutez IDFM en DAB+ sur toute l'Île-de-France.